Mais il ne peut ni rentrer chez lui avant de savoir, ni continuer de se promener au hasard des rues. Lui qui toute sa vie s'est voulu seul, qui ne pouvait tolérer de se préoccuper de l'existence d'autrui, le voilà tout à coup abandonné, non pas abandonné par un autre être, mais par lui-même, laissé de côté par son impuissance à participer. Il n'a pas le droit de s'occuper de Françoise. Elle lui a refusé ce droit. Elle ne veut pas de lui plus qu'Irène jadis, plus que maman n'aime le voir se soucier de Michou. C'est donc pour ça qu'Irène ne l'a pas épousé. Toutes ces femmes avec lesquelles il croyait jouer, elles étaient consentantes, elles ne demandaient qu'à jouer, et le plus longtemps possible, à condition que cela reste un jeu. Il a été lui-même celui dont on se joue, que personne ne prend au sérieux parce que, depuis toujours, il a lutté pour l'obtention du droit de ne pas en avoir, de se foutre des autres et de rester seul. Des secondes et des minutes sont nécessaires à ce qu'il se décide de courir au plus simple, entrer dans un bistrot, appeler Françoise. Il y a dans le café une foule de gens, surtout des garçons et des filles, à cause de l'entracte du cinéma. La pendule murale indique 10h-5. À 10h, je téléphonerai. Un sourcil inutile. Espère-t-il qu'elle essaiera de le rejoindre dans ce café où elle ne le sait pas? Il n'espère rien. Il veut réfléchir encore. Il s'est fait servir un alcool. Des filles le regardent, mais il ne les voit pas. On discute avec animation près de lui, il n'entend pas. Vaguement, il songe à lui-même pour la première fois et se demande qui il est, s'étonne d'être ce qu'il est. Jean Benoiston, pilote d'essai, 39 ans, 6000 heures de vol, 1001 femmes. Un aviateur! Le mot le frappe, il écoute, mais sans cesser de penser à ce que sera sa vie si Françoise ne l'aime pas. Car il n'est pas question seulement de coucher ensemble, elle devrait le comprendre, mais de quoi? Sur cette vie quotidienne, le tout premier il bute et souffre de se heurter au mur infranchissable. De quoi? Que pourrait-il faire ensemble, l'homme et la femme qui s'aiment, sinon l'amour? Je vous dis, un aviateur! Il y a une heure, vous dites. Il a fait. Pardon, je reprends. Je reprends. Je vous dis, un aviateur. Il y a une heure. Je vous dis, un aviateur. Il y a une heure, vous dites. Il y a une heure, vous dites. Il a fait la ligne Paris-Alger. Bon, il ne s'agit pas de lui. Jusqu'alors, c'était idiot. Il croyait que ces types parlaient de lui, comme s'il était le seul aviateur dans le monde, comme s'il ne pouvait aller nulle part sans être aussitôt reconnu. Petite fureur de se sentir bête. À coup de chaise, dites-vous? Et elle n'est pas morte? Elle n'en vaut guère mieux. Mon beau-père est infirmier à l'hôpital. Les mots se sont insinués lentement dans son cerveau. Lentement, son esprit en fait le tour. En comprend le sens, quelqu'un demande, et c'est lui-même, de qui parlez-vous? Quelqu'un répond, ce n'est pas lui, d'un type qui vient de tuer sa femme, un aviateur qui fait la ligne Paris-Alger. Paris-Alger, comment tu dis qu'il s'appelle? Je n'ai pas très bien retenu le nom, mais il est au procès-verbal. Ballard, Mallard, un nom comme ça. Maintenant, je me sauve. Une sacrée nuit en perspective. Jean regarde les hommes. Ce ne sont pas des jeunes gens, comme d'abord il l'a cru. Le maigre est inspecteur de police. Les autres, Jean ne les connaît pas. Vous avez arrêté le type? Et comment? Jamais vu un gars à ce point dégonflé. Il avoue sans qu'on lui demande. Un instant, dit Jean. Mais le flic est déjà parti. Ou Jean a parlé trop bas. Et c'est trop bas qu'il interroge. Quel hôpital? Comme s'il y en avait plusieurs. D'ailleurs, tout ça n'est pas vrai. Mais le frisson qu'il saisit est véritable. Jean y reconnaît ce tremblement qui débute par les mains, gagne les bras, tout le corps, quand, après un essai en vrille, il n'y a plus rien à faire qu'à laisser la machine humaine se remettre en place toute seule. Il lève son verre pour voir jusqu'à quel point il tremble et boit. À 8h20, maman se dit que Jean ne viendrait plus dîner. Elle appela Michou pour passer à table. Est-ce que Françoise était rentrée chez elle? Jean lui avait-il parlé? Sans doute. Il tenait toujours ce genre de promesse. Mais était-elle rentrée chez son mari? Maman s'impatientait de ne pas savoir, de ne rien savoir, de n'avoir rien su jamais ou trop tard, d'avoir toujours vécu trop tard, lasse de se tromper. Michou mangeait en silence. Cette sagesse n'était pas de lui. N'ai-je pas eu tort? N'ai-je pas eu tort de l'envoyer porter cette lettre? Mais qu'a-t-il pu y comprendre à son âge? Il pensait, je devrais parler à maman de ma lettre. Mais il faudrait alors qu'il raconte toute l'histoire et qu'il avoue avoir menti lorsqu'il a dit « Je n'ai pas vu de boîte, j'ai glissé la lettre sous la porte. » Et peut-être que maman ne saura jamais la vérité, ou peut-être que la dame sera morte avant. Si Michou avait parlé, maman n'aurait-elle pas fondu en larmes? Et lui, de même, si maman avait dit « Il fait très chaud ce soir !» Ou bien, ni lui ni elle n'auraient-ils pu pleurer? Leurs remords ne les rapprochaient pas, ce n'étaient pas les mêmes. La tête de maman est lourde, c'est... Attends, excuse-moi, là je m'arrête un tout petit peu. Tu m'entends bien, maman, tu m'entends bien, hein? Tu m'entends bien? Bah alors je reprends. Ses gestes lents. Michou a peur de se retrouver seul dans sa chambre. Il vibre comme un câble trop tendu. Maman a les nerfs noués. Si elle mourait tout à coup maintenant, il n'y aurait pas un prêtre pour délivrer son âme. Michou touche son pipi sous la table. Ceux qui parlent du bonheur, ils disent des blagues. Maman voudrait que Michou reconnaisse que la soupe est bonne. Michou attend que la sonnette de la porte sonne et que le monsieur entre avec les gendarmes. Maman s'y reprend à deux fois avant de soulever la soupière, vide. Elle s'épouvante de ne plus pouvoir penser à rien. Michou rêve d'un monde où tout le monde s'entendrait, où les enfants seraient des enfants toute leur vie, et il pleure en lui-même des larmes silencieuses parce que ce monde-là n'existe pas. Les mains de maman sont des branches mortes, elles vont casser. Michou écoute ses larmes couler à l'intérieur et il s'inquiète de devoir transporter ses fleuves dans ses songes. Ainsi, chaque soir, recommence le jeu des échanges lassés au rythme parallèle. Michou émiette du pain sur la table et maman dit « Ne te vautre pas, Michou !» Maman demeure silencieuse un instant et Michou dit « 20 ou moins 20, l'ange passe. » Mais ce soir, c'est en vain que Michou se vautre, déchire son pain, que maman, immobile, regarde au loin devant elle. Les mots de la tribu n'ont plus cours. Tous deux, ils prêtent à François... À Françoise et à Jean, un amour ensoleillé qui les rejette dans l'ombre. Ils n'échangeront d'autres mots que ceux-ci, la dernière goutte d'eau au lait avalée. Va te coucher, Michou, il est tard.
Je peux lire un peu?
Elle n'aura même pas le courage de dire non. Et pourtant, si elle disait non, il n'insisterait pas. Bien qu'il ait fort envie de lire pour ne penser à rien d'autre. Il préférerait ne pas lire à parler. Elle préférerait qu'il lise toute la nuit.
« Bonsoir, maman, » dira-t-il.
« Bonsoir, Michou. » Il s'en ira, traînant les pieds. Elle se détournera avec un soupir vers le réchaud à gaz et sa tasse de tilleul. Encore une journée passée. Encore une nuit à venir. Les erreurs s'ajoutent aux erreurs. Pour gagner quoi? Une nuit à ne pas dormir. Mais dans la même maison que Michou endormi. Et au matin, peut-être, une bonne pensée. Je suis chez moi, en vie, mon fils et mon petit-fils auprès de moi. Jean, à quelle heure va-t-il rentrer? Quand Jean arrive sur le terrain, il est si tôt que les autocars qui assurent le transport du personnel ne sont pas encore là. Que personne surtout ne lui demande ce qu'il vient y faire et à quoi s'est passée sa nuit. Il se souvient cependant de l'hôpital, du veilleur de nuit grincheux, de l'infirmière affolée. Il se souvient d'avoir piétiné des heures dans un couloir et de s'être irrité de toujours buter contre ce banc de bois sans penser à s'y asseoir. Il n'avait aucune raison de voir Françoise, aucun droit à la voir, il le savait. Pourtant, il arrêtait l'infirmière au passage. Une étrange infirmière, avec un voile mauve. Mais tout était étrange. Le banc de bois et le silence, cette lourdeur dans sa bouche qui devait provenir de la folle quantité des cigarettes fumées. Les mots surtout, fracture du crâne, hémorragie. Il en venait à oublier qu'on lui parlait de Françoise. À la fin, quelqu'un lui dit, un médecin, plus compatissant que les femmes, « Nous avons fait de notre mieux, mais il n'y avait rien à faire. » Elle est morte. Le médecin haussa les épaules. Il dit à l'infirmière au voile mauve de laisser entrer ce monsieur dans la chambre. Cela n'a plus d'importance, plus rien à faire. Jean vint donc dans la chambre et regarda Françoise. Rien d'autre à faire que regarder. Il ne la reconnut pas. Peut-être aussi ne l'avait-il jamais regardée jusqu'alors. Ou peut-être lui fallait-il la voir ainsi, sans maquillage, sans parure. Sans la parure même de ses longs cheveux, imprécise, inachevée, mais évidente, une femme qui, jusqu'au bout, avait lutté. Pourquoi, plutôt, n'a-t-il jamais songé à rassembler ce qu'il savait d'elle, pour créer d'elle une image ressemblante? Pour la connaître entière. Elle lui avait parlé de son enfance dans une bourgade de Touraine, triste et sans échappée, du refus de l'enfance et de ses études à Tours et de sa peine d'être moins bien vêtue que ses camarades. Il n'avait pas compris. L'orgueil, pourtant, et le refus de l'orgueil, il aurait dû comprendre. Elle lui avait parlé de l'école du Louvre et de sa crainte du flirt et de ses mauvais devoirs, ou bien... Trop bon, curieux, disait le professeur. Le refus de l'isolement et les phrases toutes faites pour ne pas scandaliser. Elle lui avait parlé, mais il n'écoutait pas, de ce métier où elle devait se défendre contre la goujaterie, la jalousie, l'outrage. Le refus d'être une proie et le rire crispé lorsque, En présence d'un étranger qui ne lui déplaisait pas, elle ne savait s'il ne serait pas comme les autres, s'il ne serait pas comme Michel Galard. Michel Galard. Et le refus de Michel Galard. Pendant toutes ces années qui passent sans, croirait-on, rien apporter, rien ne peut naître de la peur de s'ouvrir. Et la peur de s'ouvrir est la condition même de l'existence pour une jeune femme qui lutte seule. Une petite fille timide et qui l'était restée, mais qui ne le laissait jamais voir. La peur de s'ouvrir, le refus. Et, par là-dessous, une puissance de rêve, une obsession de la beauté, une volonté d'amour et de joie, pour toujours inutilisée. C'est trop injuste, pensait-il. Qu'est-ce qui est injuste? Ou plutôt, qui l'a été? Françoise. Il étendait la main vers le visage vide, que rien n'avait rempli qu'un peu de plaisir grâce à lui. On vint lui dire qu'il était temps de partir. Il s'en alla, il se rappelle avoir parcouru la ville à la recherche d'un bistrot pour y boire du cognac. Il se rappelle très bien son besoin de cognac et son envie de tuer Michel. Mais Michel était au poste et les bistrots fermés. Comme un homme, lentement hissé jusqu'à un point d'équilibre, voit ce point se rompre alors qu'il va l'atteindre. Jean concevait à peine d'où il était tombé. Marchant dans les rues d'une aube déserte, la mort de Françoise le tourmentait moins que son propre aveuglement, sa clairvoyance tardive. Je ne pouvais pas l'aimer, je ne la connaissais pas. Il songeait avec remords, un remords extravagant, disproportionné à la faute, au bouton sous l'oreille gauche que pendant des semaines il s'était appliqué à ne pas voir. Je ne voulais pas la connaître. Vivante, ne se serait-il pas détaché d'elle? Sans doute n'aurait-il pu se résoudre à l'épouser. L'eût-il épousée, il en serait venu. Je me suis trop souvent donné à d'autres femmes, donné pour rien, pour le plaisir. Il en serait venu à lui refuser un mot de réconfort le jour où, triste et lasse, elle en aurait eu le plus grand besoin. Cette pensée, comme toutes celles qu'il ébauchait, demeurait confuse, d'autant plus effrayante. Et peut-être un autre jour aurait-il détesté Françoise, pour sa propre impuissance à l'aimer comme on doit aimer, sans se diminuer, sans s'avilir, jusqu'au « qu'est-ce que tu veux ?» de Michel. Peut-être aurait-il haï Françoise, comme maman, son mari. Il s'épouvantait de ce don mutuel que la vie commune exige d'un couple. Beaucoup plus tard, il cessa de s'en épouvanter. N'était-ce pas, après cela, que toute sa vie, il avait couru? En face de la gare, un bistrot ouvrait à 5h30 du matin. Il s'y fit servir un café. Près de lui, accoudé au comptoir, trois cheminots buvaient des calvats. Il reconnut l'espèce d'homme dont les gestes lui paraissaient si bizarres, désaccordés. 21 ans plus tôt, à Reims. De tels hommes, combien, depuis Reims, en a-t-il rencontré sans les voir? Son métier collait à sa peau, son métier devenait sa peau, rien d'autre n'existait pour lui. Il demanda un second café, mais pas de cognac. Il volerait aujourd'hui même, il voulait voler ce matin, puisqu'il n'était bon qu'à ça. Puis, il alla chercher sa voiture au garage. Il ne pensait plus à sa partenaire de cavalière, de la chambre orange, la belle fille longue et nue aux cheveux d'or, il ne l'aimait pas. Il ne pensait qu'à la moribonde, dont le visage creusait un oreiller, dans un lit d'hôpital.